Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes lundi, c'est votre nouveau rendez-vous, le premier de la semaine, le magazine de la bonne soirée, en deux temps et à deux vitesses, l'actualité et la musique live, donc actuelle, c'est en première partie, et puis les archives extraordinaires de France Inter, c'est en deuxième heure. L'actualité ce soir a une couleur jaune, gilet jaune au lendemain de l'acte 44 à Nantes, à Orly, avec des militants d'extrême droite. Où en est le mouvement? Quelle est aujourd'hui sa singularité et quel avenir pour celles et ceux qui ne lâchent rien? Vous aviez un titre ou plusieurs à nous proposer, Christophe Bourseiller.
J'en ai plein.
Sortez-les de votre chapeau.
Vous voulez un titre sérieux?
Oui.
Que reste-t-il des gilets jaunes? Ça, c'est le titre sérieux.
Moi, oui, c'est pas vrai.
Très original.
C'est même le titre.
Sinon, j'avais. Alors la jaunisse, c'est déjà fini.
Non,
non. Vous n'aimez pas.
Non.
Bon, gilets jaunes, une rentrée à l'orange.
Ah, c'est pas mal.
Et alors, gilets jaunes, on enlève le haut. On enlève le gilet jaune, vous voyez ce que je veux dire, pour aller faire autre chose.
Vous êtes tellement années 80.
Bah, un petit peu. Oui.
La musique en mouvement ce soir, premier live de la semaine, et c'est du lourd, Marion Guilbeault.
Oui, Laurent, on a rendez-vous avec Altingen. Altingen, c'est le groupe qui ressuscite et qui électrise la pop anatolienne.
Et puis, autre temps, autre prise de parole, ce sera le NRV La Suite, France Inter plus d'interception. Vous savez, le grand magazine reportage de la rédaction fête ses 20 ans. Ce soir, le thème, ce sera Locked in Syndrome. Grand prix du reportage Radio France en 2009, c'est-à-dire il y a 10 ans. Que des anniversaires ce soir. Le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Cher Christophe, je vais vous présenter vos et nos invités.
Ah bah oui.
Je vous présente Claudine Bory, elle est assise
Bonjour.
À côté de vous. Elle est documentariste, co-réalisatrice du film Nous le Peuple, qui sort mercredi prochain.
Absolument.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ingrid Levavasseur, juste en face de vous, vous savez, on a essayé de la voir pendant plein de...
Des mois et des mois.
Mais on a compris
en
dans
le livre. En lisant
le
livre, bien sûr. Le numéro était mauvais.
Vous êtes une ancienne figure emblématique et médiatique des Gilets jaunes, animatrice des associations Racines Positives et Éclosion Démocratique, et vous signez Restez Digne, pourquoi je me bats, aux éditions Flammarion. Merci et bonsoir,
bonsoir.
Ingrid Levavasseur.
Merci.
À vos côtés, Arnaud Benedetti, vous êtes politologue, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire.
Bonsoir.
Et Pascal Fautrier va nous rejoindre dans quelques instants, un petit problème de taxi j'imagine. Elle est romancière et elle est auteure de La vie en jaune, chronique d'un soulèvement populaire aux éditions Diable Vauvert. Mais avant même de la recevoir... L'éditorial, c'est vous Christophe Bourseiller?
C'est moi, je fais un éditorial.
Allez-y, oui.
Vous êtes sûr? On peut faire du Godard si vous voulez. Alors d'accord, je vais improviser. Non, pas du tout. Vous avez remarqué, Laurent, la France vit comme tous les ans à la même époque une rentrée sociale. Chaque catégorie nous annonce sa grève et défile séparément dans les rues. Est-ce le retour à la normale politique et syndicale, CGT, CFDT, FO, UNSA et les autres? Nous avons pourtant vécu, Laurent, à la fin 2018, un long orage social qui a tonné jusqu'à l'été. Mmh. Sa particularité, c'était un orage jaune. Alors, les gilets jaunes ont-ils disparu? La plupart des ronds-points ont certes été désertés, mais la pièce continue, je devrais dire, Laurent, le spectacle de rue. Nous venons de vivre l'acte 44, en attendant le suivant, l'acte 45, sur un mode décidément théâtral. Les organisateurs nous annoncent d'ailleurs que cet acte 45 sera massif. Alors, ils nous avaient déjà annoncé la paralysie du pays, la prise de Paris et la chute de Macron. Alors certes, ils sont moins nombreux qu'avant, ils sont étriés par la zizanie, ils coupent toutes les têtes qui dépassent, ils sont infiltrés, manipulés par une kyrielle de groupes politiques. Alors, exunt les gilets jaunes, ça c'est le côté un peu latin, vous voyez, un peu
oui,
littéraire
oui.
Latin, exunt les gilets jaunes, et pourtant Laurent, il y a toujours des gens qui sont à découvert le 10 du mois, vous, moi entre autres, bon. Il y a ceux qui s'offrent de la viande une fois par mois, il y a ceux qui croupissent dans la misère, alors leur colère, elle peut se réveiller à nouveau, à tout moment. Ingrid Levavasseur, quel bilan tirez-vous de la manifestation de samedi qui s'est déroulée principalement à Nantes, mais aussi un petit peu partout en France?
C'est difficile parce qu'on me demande toujours ce que j'en pense, alors que ce mouvement, j'ai été évincée, donc j'essaie de m'y intéresser de loin, ou en tout cas avec les gens qui se tournent vers moi et qui ont envie d'échanger avec moi. Je vais pas tirer le bilan de cette manifestation, puisque de toute façon je n'y étais pas. Ceci dit, il n'empêche en rien que j'ai toujours mes convictions de la première heure, que les revendications premières ne sont pas résolues, on n'a pas trouvé de solution, et donc nous, on cherche des solutions, avec Éclosion démocratique notamment, et on voudrait vraiment que les solutions soient trouvées.
Arnaud Benedetti, vous, comment vous avez regardé donc l'acte 44, notamment donc 1800 manifestants à Nantes, 500 à Paris, dont 100 infiltrés par l'extrême droite.
Donc 100 à Orly, il y a eu un petit manifestation avec, à Orly avec des
manifestants du côté d'Alain Soral.
Si vous voulez, il y a toujours un bruit de fond qui continue à persister dans le pays. On voit bien qu'aujourd'hui, ce sont vraisemblablement les plus politisés et les plus radicalisés qui se manifestent tous les samedis. Mais comme l'a rappelé Christian Bourseiller, les raisons profondes de l'émergence du phénomène gilet jaune n'ont pas disparu, c'est-à-dire les fractures territoriales, les fractures sociales, les fractures politiques, les fractures économiques, toutes les fractures que ce mouvement a fait émerger et a exprimées demeurent. Donc on peut considérer que le terreau sur lequel s'est bâti ce mouvement reste encore extrêmement riche en potentiel de mobilisation, surtout dans un contexte social, et vous l'avez rappelé, qui reste pour le moins encore c'est très explosif.
Ils ont promis un septembre noir, les gilets jaunes. Alors pour l'instant, ils ont toujours tendance un peu à promettre plus qu'ils ne donnent.
D'abord, il faut toujours se méfier des annonces et des effets d'annonce. Il faut toujours se méfier des rentrées sociales dont on dit qu'elles seront explosives. En général, les rentrées sociales sont beaucoup moins explosives qu'on ne le dit, et on voit que c'est parfois 2 mois, voire 3 mois plus tard que les mouvements sociaux
se cristallisent. Par exemple, il fallait attendre novembre pour l'acte 1
C'était le cas avec les gilets jaunes. Sauf que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez un paysage politique et social qui est profondément marqué par une réforme qui est une réforme totémique dans le paysage politique français, qui est la réforme des retraites et qui constitue en effet une mèche susceptible d'allumer le baril.
Claudine Borivou, vous avez regardé justement ce qui s'est passé ce week-end.
Moi, j'étais en province puisque nous on fait des avant-premières en province.
Bien. Pour le film, voilà. Nous le faisons.
Effectivement, j'ai été confrontée à la question des gilets jaunes dans toutes les salles, toutes les salles, on était le jour en question, on était à Bayonne et on avait des gilets jaunes dans la salle, voilà. Et qui nous ont bien dit qu'ils étaient tout à fait décidés à continuer et que voilà et qu'ils se retrouvaient complètement dans le film qu'on avait fait.
Mais on parlera tout à l'heure plus amplement.
Et ce qui m'a vraiment ému, c'est qu'ils demandaient aux autres spectateurs pourquoi vous venez pas avec nous, pourquoi on est si peu nombreux.
Et pourquoi ils sont désavoués aujourd'hui par 52% de la population?
Pourquoi, dites-nous, parce que peut-être on peut modifier des choses, ils étaient très, très à l'écoute.
Sans beaucoup d'autocritique, me semble-t-il, parce que c'est vrai que c'est un mouvement qui n'a jamais eu véritablement de conscience de soi, comme on dit, qui a toujours avancé de façon un peu instinctive. Mais c'est vrai que je voyais, par exemple, j'ai regardé un film sur la mobilisation d'Orly, où donc il y a un certain nombre de gens qui sont allés à Orly protester contre plus ou moins la privatisation d'aéroport de Paris. Et leur slogan, c'était révolution, révolution. C'est-à-dire qu'au fond, c'était au départ la lutte contre la hausse du carburant. Et aujourd'hui, on est dans quelque chose de beaucoup plus instinctif, au fond.
Et ce qui est intéressant par rapport à Révolution, il ne faut pas oublier que c'était le titre de l'ouvrage d'Emmanuel Macron.
Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant avec ce mouvement, c'est que c'est un mouvement totalement paradoxal. Vous aviez dans ce mouvement des gens qui étaient et qui sont encore certainement très politisés. Et c'est indéniable, ceux-là, dès le début, ont participé au mouvement et constituent vraisemblablement le gros des troupes aujourd'hui qui continuent à manifester. Mais par ailleurs, ce mouvement a ramené à la politique des gens qui étaient parfois d'ailleurs invisibles, ce qu'on appelle les invisibles, et qui n'avaient pas un engagement politique, qui n'avaient même pas un engagement syndical. Donc ce mouvement, c'est un mix à la fois entre des gens qui peuvent être très politisés, qui constituaient parfois une avant-garde, avec d'ailleurs des idéologies très différentes, on l'a vu dès le début, et puis des gens qui avaient un rapport à la chose publique, qui était beaucoup plus distendu, mais qui, en raison de leur situation personnelle, ont décidé de s'engager dans un mouvement qui est totalement désintermédié, parce que la force de ce mouvement, en fin de compte, c'est la désintermédiation, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui n'obéit à aucune forme de mobilisation classique qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant.
Alors bien sûr, les mouvements politiques se sont fait l'écho de ce qui se passait. Emmanuel Macron n'est pas resté sourd aux gilets jaunes, même si les choses n'ont pas véritablement évolué. On a vu à Fréjus, c'était hier, je crois, Marine Le Pen dans son discours faire un peu un appel du pied du côté des gilets jaunes. Du côté d'Orly, c'était une manifestation infiltrée par, on va dire, les agents d'Alain Soral. Vous, quand vous étiez dans le mouvement Ingrid Levavasseur, est-ce que vous avez vu ces infiltrations politiques, d'ailleurs, de tous bords?
Vous en parlez de Restez Digne.
Bien sûr, j'en parle d'ailleurs dans Restez Digne. Il y a eu des infiltrations, mais de toutes parts, et surtout les extrêmes. On a vu aussi bien les insoumis que l'extrême droite. C'était vraiment dans ce cas-là, on arrive à se donner la main. Bon, pourquoi pas. Maintenant, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a quand même les plus radicaux qui sont encore sur le terrain, et on le voit, on le sent. Moi, quand je publie quelque chose sur les réseaux sociaux, tout de suite, je me fais attaquer des deux côtés. Les plus modérés arrivent à commenter, on arrive à argumenter, à communiquer, à échanger. Et puis, bah, pour les autres, c'est soit on est de mon côté, soit on est du mien. Et du coup, c'est toujours délicat parce qu'ils ont du mal à entendre qu'on ne soit pas forcément d'accord avec l'un ou avec l'autre.
Votre tort, c'était d'être modéré, au fond, hein, puisqu'on voit bien que ce mouvement, aujourd'hui, s'est extrémisé au fil du temps.
Mais en fait, ça a toujours été mon problème, c'est que j'ai toujours été pour la communication, pour l'échange, et non pour la violence, et ce, dès le départ.
Est-ce que vous avez déclaré dès le départ, en effet, c'est pas en cassant que les choses vont changer.
Tout à fait, mais dès le début, hein, à peine 3 semaines après le début du mouvement, j'ai commencé à dire, je pense que jamais il y aura de démission de la part du président, il y aura pas de dissolution de l'Assemblée nationale, c'est d'ailleurs ce que j'explique. Je pense qu'il faut qu'on se structure, qu'on arrive à faire quelque chose, qu'on se mobilise, qu'on soit présent dès les premières élections, parce que on avait quand même 80% de soutien de la population. C'était à ce moment-là qu'il aurait fallu pouvoir s'organiser. Bon, ma foi, j'ai été très vite évincée, surtout qu'en tant que femme, c'était encore plus facile. J'ai toujours été dite illégitime dès le départ. Bon, on acceptait les politiciens, finalement, on acceptait tout le monde, mais on n'acceptait pas les gens du peuple, ceux qui souffrent au quotidien des situations difficiles, délicates, un peu comme moi, mais on est des millions dans mon cas. Donc,
voilà, c'était... Une réaction par rapport à ce discours ?
Eh bien, c'est vrai que dans notre film, on s'est tourné vers, alors là, vraiment des gens du peuple, et que c'est eux qui portent la parole politique de notre film. Donc là-dessus, je n'ai aucun état d'âme. Je pense qu'effectivement, c'est au peuple de s'exprimer, et le plus possible aujourd'hui, directement, c'est-à-dire sans passer par des représentants, puisque aujourd'hui, les représentants sont mis en cause. Donc, il faut prendre ça en compte. Mais je crois qu'il y a tout un travail de la pensée qui est à effectuer et que c'est au peuple de l'effectuer, ça n'est pas au personnel politique.
Eh bien, on va revenir sur cette dimension-là dans la deuxième partie. Une excellente transition. On voit bien que vous êtes du côté du cinéma aussi. On accueille Pascal Fautrier qui est arrivé tout en jaune, ou presque. Hein, jaune moutarde. À tout de suite.
Ouais. C'est quoi ce grand sourire sur ton visage?
Je me disais que les gens, ils savent pas à quel point on a réussi notre life.
My life.
On a réussi notre life.
Ah ouais. Ha, j'ai réussi ma life. Demain je sais pas, mais aujourd'hui j'ai réussi ma life. Qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais pris ma place? Je suis même pas sûr que t'aurais réussi ma life. Sneakers classés, j'ai réussi ma life. J'ai racheté tous mes jouets, j'ai réussi ma life. J'ai plus rien à prouver, j'ai réussi ma life. Putain, j'ai réussi ma life, je me lève à midi. Y'a des choses qui vaut mieux remettre au lendemain comme le suicide. Oui, oui, je maîtrise la chimie. S'il y a du rap de Yankee, je dois être le scientifique, celui qui s'enrichit. Perdu dans mes pensées quand y'avait pas de plan. Absent, avant, quand la vie n'avait pas de sens. Quand j'étais pas sûr d'avoir du talent, quand j'y croyais pas. Boule au vent, tellement gros, je pouvais faire des caméas. J'ai la formule secrète, j'ai des nouveaux et des vieux textes. Des vérités, ils sont des peut-être. Mes ex me regrettent, j'ai réussi ma life. J'suis plus genre de truc où tu te sens sale comme après deux grecs. C'est ta Rolex mais c'est mon heure. Ta percée c'est super, maintenant essaye de tenir la longueur. J'rentre en boîte en Quechua, j'suis fidèle. C'est pour ça que ta pétasse rentre chez toi, n'est-ce pas? J'voulais écrire pour ces petits bâtards, mais la seule chose que j'ai trouvé à dire c'est ha ha. J'ai réussi ma life, j'ai réussi ma life. Aurait l'été sur la rythmique à face.
Koiba, Chivas, j'ai réussi ma life. Un nouveau moulinet, j'ai réussi ma life. Aubergine, parmesan, j'ai réussi ma life. Plus de batterie, j'ai réussi ma life. Ce que je fais de ma vie, j'écris des vaccins. Trouver des formules pour frimer des choses simples. Positivité recto verso, je remercie la vie quand je me sers un verre d'eau. Tu sais ce que ça fait de sentir happy après autant de réveils sur le tapis, sous la pluie, assis sur un banc, porte de pantin, sans aucun plan, aucun tapin. Je chante avec nonchalance. T'as ton avis, si t'es pas fan, je m'en balance. Dans le plaisir de chaque instant, depuis que je me remets de la délinquance. Primés, ils n'ont aucune raison de s'en devenir meilleur qu'une saison 2. Je vais m'en sortir avec Aurel en fit solide. Pas comme une clope et Oli. Tu peux enchaîner les cadeaux, c'est toi le prisonnier. Tu s'achètes pas, tu tombes dans les 10 premiers rounds. Tellement de blindés qui ont raté leur life. À cette heure précise, j'ai réussi ma life.
my life.
My Life, le duo Oxmo Puccino et Aurel San qui racontent leur vie en virée musicale et automobile à bord d'une vieille voiture russe dans les rues de Kiev. C'est un extrait, extrait du nouvel album d'Oxmo Puccino, La Nuit du Réveil. La programmation est insomniaque ce soir pour Jean-Baptiste Audibert.
Ah oui.
Rendez-vous.
Ingrid, elle est aide-soignante, elle gagne 1 250 € par mois.
J'ai voté Macron, donc je tiens à le dire, maintenant je regrette parce que je me rends compte que c'est pas tout à fait je m'attendais.
France Inter. Ces gilets jaunes viennent de toute la France. Bonsoir Ingrid Levavasseur.
Je suis pas porte-parole du tout. Je suis juste une citoyenne. Je vois la souffrance partout.
Le nouveau rendez-vous.
Vous êtes une vraie femme politisée. Puis c'est tout. Vous enlevez votre gilet.
Insultée, bousculée, prise à partie par plusieurs manifestants.
Je pense qu'ils ont même pas encore compris que j'étais sortie du fait d'aller aux européennes.
Laurent Goumard.
Être devant, ça vous a coûté cher.
Ça m'a coûté cher, ça m'a coûté quelques déceptions, c'est vrai.
Ingrid Levavasseur, tout est dit depuis une de vos premières prises de parole en novembre 2018 jusqu'à la semaine dernière. On vient de vous écouter chez Ruth Elkrief sur BFM. Le cyclone médiatique reprend en fait pour vous.
Oui, tout à fait.
Ce cyclone médiatique que vous décrivez dans Restez digne, ce nouveau livre.
Ouais. C'est vrai que j'ai fait une pause cet été, ça m'a été très bénéfique.
Mais on a l'impression que vous avez été happé par un cyclone médiatique quand vous étiez au début du mouvement. Est-ce que vous en voulez aux médias ?
Absolument pas. En fait, beaucoup m'ont reproché justement de pactiser soit avec le gouvernement, soit avec les médias. Ce qui est absolument faux, puisque moi j'ai toujours eu pour objectif de dire ce que je pensais, haut et fort, peu importe qui j'ai en face de moi, que ce soit un ministre, ou un journaliste, ou un camarade de lutte, je dis ce que je pense, c'est comme ça, on va pas m'attacher, ni même me bâillonner, c'est hors de question. Et puis j'en veux pas aux médias, parce que j'ai toujours fait ce que je voulais, et quand je voulais pas répondre à la question qu'on me posait, ou avec les mots qu'on attendait de moi, je le faisais pas, et puis c'est tout. Enfin, j'ai rien à reprocher à qui que ce soit, en fait, j'ai fait ce que je voulais.
À part peut-être à vos camarades, parce que vous, dans votre livre, vous écrivez le 17 février 2019 où vous allez manifester tranquillement comme tous les samedis, et puis tout à coup il y a une bande qui se jette sur vous avec une fille tatouée qui vous crache au visage, et là vous vous demandez ce qui vous arrive.
En fait je leur en veux même pas parce qu'ils étaient forts, parce qu'ils étaient en groupe. Ces gens-là, je les croise individuellement dans la rue, jamais ils viennent me voir. J'ai même croisé dernièrement des gens qui m'ont critiqué sur les réseaux sociaux parce que c'est tellement facile. Alors on m'insulte sur les réseaux sociaux, mais manque de peau, j'ai reconnu la personne. Je l'ai croisée quelques jours après dans la rue, je lui ai adressé un sourire, je me suis dit peut-être qu'elle va venir me voir et me dire ce qu'elle a réellement à me dire, mais non, en fait ça a loupé, elle ne l'a pas fait. Donc je pense que c'est l'effet de masse qui a fait ça. Maintenant, je me suis retrouvée effectivement en tête de cortège, c'est une erreur en fait, ils ont fait demi-tour et ils sont tombés sur moi. C'est dommage, oui, parce qu'il y a une haine qui s'est dégagée de chaque personne individuellement. Cette femme dont vous parlez et dont je parle dans le livre, c'est une femme très belle, voilà, elle était très jolie, je la trouvais vraiment jolie, et toute cette haine qui sortait de son visage, j'arrivais pas à comprendre en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Et aujourd'hui, a posteriori, est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est-à-dire que vous aviez tenté de sortir déjà la tête du groupe?
Ils ont une défiance envers moi, comme ils ont une défiance envers les politiciens, envers tous ceux qui s'engagent et qui représentent, entre guillemets, le pouvoir. Au final, j'étais
vous
comme les autres.
Vous êtes passé à la télé et du coup, vous êtes devenu l'ennemi, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça, en quelque sorte. Bon, l'ennemi, c'est pas l'intégralité du mouvement, mais effectivement, quand on se fait agresser par les plus agressifs, parce qu'avant je manifestais dans le cortège et ça se passait très bien, ceux qui étaient autour de moi étaient très respectueux, il y a encore beaucoup de gilets jaunes qui sont aujourd'hui à mes côtés et qui sont très respectueux et qui manifestent encore, ça me pose aucun problème, ni à eux ni à moi. Maintenant je suis tombée sur les plus radicaux, ceux qui m'ont violentée, et c'est les aléas, c'est ce qui se passe des fois dans les manifestations, et voilà, c'est arrivé.
Pascal Fautrier, dans ce mouvement des gilets jaunes que vous connaissez bien, puisque même vous êtes venu habillé en jaune, c'est très élégant, non pas avec un gilet jaune, hein, je précise, mais en jaune. Dans ce mouvement des gilets jaunes, depuis le départ, il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont d'une grande sincérité, qu'on voit sur les ronds-points, oui. Et puis des éléments extrémistes. On en parlait dans la première partie avec Laurent Goumard, notamment d'extrême droite, qui était à Orly samedi. Il y a toujours eu des tentatives de noyautage, et elle le raconte, Ingrid Levavasseur, dans son livre, comment plein de gens essaient de la, en quelque sorte, de l'attirer à eux.
Oui, je crois même qu'en amont, il y a probablement eu des gens qui ont préparé, notamment les groupes colères, on ne sait pas très bien d'où ils viennent.
Mais des groupes venus de l'extrême droite.
Enfin, on sait, voilà, maintenant on sait mieux d'où ils viennent, c'est pas encore complètement documenté, mais on en saura, je pense, mieux dans les mois qui viennent. En même temps, évidemment, en octobre, ce qui s'est passé, c'est un dépassement de ces intentions-là, qui étaient nettement des intentions pas seulement d'extrême droite, je pense. Je pense que le mot extrémiste rend pas du tout compte de la situation, mais également la droite. Hein. Je pense que la droite était également à la manœuvre à l'origine du mouvement, hein, qu'ils ont été complètement dépassés au mois d'octobre, à partir de la mi-octobre, par le succès de ce qu'ils avaient lancé.
Arnaud Benedetti, vous confirmez que la droite aussi était aux manœuvres ?
Elle était aux manœuvres, mais si vous voulez, la spécificité de ce mouvement, c'était quand même un mouvement, et c'est ce qui a fait son succès au début, même s'il y a eu des facteurs d'organisation. Vous avez rappelé en effet qu'un certain nombre de groupes étaient présents dans la mobilisation. C'est un mouvement qui est inorganisé. Et c'est ce qui a fait sa force au début. C'est cette inorganisation qui a, d'une certaine manière, surpris les pouvoirs publics et qui a déstabilisé les pouvoirs publics. Et la réalité, c'est que leur grande force a été la communication politique, en l'occurrence. C'est que, tout simplement, ils ont réussi là où personne n'avait réussi, c'est-à-dire d'avoir une communication politique inventive qui leur permet d'exister sur la scène publique. Public et qui, avec le symbole du gilet jaune, qui est un symbole extraordinaire sur le plan de la communication, parce que le gilet jaune, c'est la situation d'urgence absolue, ils ont réussi à capter l'attention des médias. Pas tellement sur le plan quantitatif, parce que quand on regarde la mobilisation sur le plan quantitatif, elle n'est pas énorme.
Non, le maximum, c'est 290 000
personnes. Mais leur force, c'est d'avoir capté l'opinion publique, et une opinion publique qui les a soutenus pendant très longtemps.
Alors juste par rapport à ce rejet des politiques, on va entendre un son, quelques gilets jaunes qui s'expriment sur le rejet des politiques, et peut-être même au-delà, d'une certaine forme de démocratie.
Alors moi personnellement, je me reconnais en aucun parti politique. Je veux juste être une citoyenne qui dit « bon, stop, maintenant, j'en ai marre ».
On ne veut plus même plus entendre ce mot « politique ». C'est devenu un gros mot.
On veut être libre, on ne veut pas appartenir à quelqu'un, on veut être libre, on est des citoyens. C'est à nous, la France. Donc, pourquoi aller se cacher derrière quelque chose ou quelqu'un ?
Claudine Bory, vous qui connaissez aussi ce mouvement, ou disons les prémices de ce mouvement, on parlera tout à l'heure de votre film « Nous, le peuple », pourquoi ce mouvement n'est pas devenu le mouvement 5 étoiles en fait ? Pourquoi il n'a pas réussi, ou n'a pas voulu plutôt, se former comme un parti politique lambda ?
Ah, vous me demandez ça à moi ?
Ben oui, parce que vous avez quand même vu des ateliers constituants, vous avez filmé.
Je suis cinéaste, hein, ouais. je ne suis pas une femme politique, mais lors, par exemple, des avant-premières de votre film, vous rencontrez quand même. Pour partir de l'origine, en ce qui concerne notre désir de ce film, du film qu'on a fait, nous, le peuple, le mouvement des Gilets jaunes n'existait absolument pas. Il n'y avait absolument rien de ce genre en France. Au contraire, on était dans une espèce de creux de la vague absolument extraordinaire.
En 2018,
hein, non. Nous, on a commencé à penser à ce film en fin 2016, c'est-à-dire même avant l'élection présidentielle.
Et on va parler du film dans la troisième partie.
Non, mais attendez, parce que je voudrais réagir sur... J'ignorais complètement ce que vous disiez, Pascal Fautrier, sur l'origine, le fait qu'il y a eu manipulation au départ, etc. Je suis pas au courant du tout, mais si c'est vrai, je m'en réjouis. Je me réjouis du dépassement.
Vous conseille de lire Le Monde.
C'est-à-dire, je me réjouis du dépassement par les gens qui ont fait ce mouvement. C'est très joyeux. Et en fait, c'est ça moi qui m'interpelle et qui m'intéresse dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est la vitalité.
Une vitalité qui ne passera pas par le politique, oui.
Oui, ça n'empêche pas qu'effectivement, c'est devenu ce qu'on peut appeler un soulèvement populaire.
Oui, absolument.
En dépassant complètement les intentions des gens qui ont lancé, par exemple, les groupes colères dans toute la France à partir de janvier 2018. Y compris la pétition d'Oudoski a été dépassée par son succès.
Mais vous voyez, ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que quand Ingrid Levavasseur raconte son éviction, c'est parce qu'elle a voulu jouer le jeu politique, en réalité. D'ailleurs, elle le dit, en s'excluant du jeu démocratique, le mouvement des Gilets jaunes, c'est s'aborder. C'est ce que vous dites dans votre livre. Vous avez lancé une liste, vous avez participé, et on s'est dit, ça y est, elle nous trahit, elle devient une politicienne.
Oui, je devenais une politicienne, mais en fait, ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que moi, je pensais bien faire, enfin, on pensait bien faire, parce que, en fait, j'ai été bafouée, j'ai été violentée, alors que ce qu'il faut savoir quand même, c'est parce que c'est important, je l'écris d'ailleurs dans le livre, moi, je me fais violenter en tant qu'ancienne tête de liste, je sors de la liste, je dis, c'est pas possible, ça va pas se passer comme
c'était
ça.
C'était les Européennes, vous aviez présenté une liste, puis tout le monde, ça s'est délité.
Et puis, en fait, j'ai décidé d'en sortir, d'ailleurs, je le raconte ce qui s'est passé et pourquoi pourquoi j'en sors, parce que en fait finalement on était encore manipulés en interne, donc et là par l'extrême droite pour le coup. Et donc moi j'ai décidé de ne surtout pas suivre ce qui s'y passe parce que ça ne ressemble pas à mes valeurs et aux convictions que j'ai envie de renvoyer aux autres. Donc je sors de ça, je manifeste le 17 février et je pars vraiment confiante parce que je me dis ceux qui sont encore dans la liste RIC ont manifesté hier. Je précise que c'était des hommes. Ils ont manifesté le 16 février et pour eux, tout s'est bien passé. Ils ont été acclamés dans la foule. Tout se passe très bien. Moi, j'y vais le lendemain et je me fais violenter.
Parce que vous êtes une femme, peut-être que ça se passe comme
là,
ça.
Là, pour le coup, c'est une certitude.
Là, c'est certain, vu les injures.
Il n'y a aucun doute. Ouais. Eux, les hommes, sont encore dans la liste RIC et vont aller jusqu'au bout parce que ils vont aller avec Francis Lalanne jusqu'au bout et ils ne subiront pas un tiers de ce que moi j'ai subi.
Enfin, ils vont subir quand même quelque chose, c'est-à-dire 0,0.
Oui, évidemment, mais ils ne subiront pas la violence. Oui. Physique, ni verbale, ni l'humiliation publique que moi j'ai pu subir ce 17 février.
Une autre forme d'humiliation publique.
Tout à fait.
Arnaud Benedetti, est-ce que le fait de ne pas vouloir jouer le jeu de la politique, c'est une force ou une faiblesse par rapport à ce mouvement ? Parce que la question se pose véritablement.
Ça a été une force au début. De toute façon, ce mouvement est aussi l'expression, au-delà des revendications initiales, d'une crise de la représentation politique, c'est-à-dire des gens qui ne se retrouvent plus, ou en tout cas de manière très partielle et partiale, dans les offres politiques qui aujourd'hui se présentent sur la scène politique. La réalité, c'est que c'est surtout un mouvement qui traduit un rejet des élites. Et les politiques font partie des élites, d'une certaine façon aussi. Donc, c'est sa caractéristique principale. Et en même temps, c'est un mouvement très politique parce qu'il dit aux politiques, ressaisissez-vous, finalement, de la maîtrise de la chose publique. In fine, c'est un message quasi subliminal qui est envoyé par les Gilets jaunes aux élites et aux dirigeants de ce pays en leur disant, finalement, vous ne traitez pas les problèmes du pays, les problèmes du pays sont traités ailleurs, vraisemblablement, mais faites votre job, faites votre métier. Et il y a aussi, disons, une demande de politique à travers ce rejet de politique. C'est pour ça que ce mouvement est très paradoxal.
Pascal Fautrier.
Oui, je crois qu'il y a un autre élément, c'est qu'il y a des gens qui ont décidé d'entrée de jeu de se dire apolitique pour avancer masqué. Et que c'est une stratégie. C'est une ligne politique et c'est une stratégie, notamment à droite, à l'extrême droite, à l'ultra-droite. Et c'est une vieille affaire.
Ah oui, généralement, quand on dit qu'on est apolitique, on est d'extrême droite.
Bon, enfin, en tout cas, c'est une stratégie qui est de longue date. D'autre part, je pense qu'il y a un autre élément, c'est qu'effectivement, c'est un mouvement dont la base est une sorte de protestation contre l'abandon du discours de la promesse républicaine. Et un abandon qui est ancien, qui est un abandon qui date du discours de Sarkozy, qui date de l'élection de Sarkozy, à mon sens. C'est absolument l'abandon du fait qu'effectivement, la République, ça doit être la redistribution des richesses, l'école pour tous, la justice fiscale, etc. Donc là, il y a ce mouvement du point de vue populaire et du point de vue de son caractère de soulèvement populaire, c'est ça sa base politique, c'est une protestation républicaine. Et du coup, il y a une sorte de confusion politique dans cette base républicaine qui est très large.
Et pour autant, il y a eu des avancées. Il y a eu par exemple la réindexation des retraites, la suppression de la hausse de la CSG, la baisse de 10% sur les impôts sur le revenu. Il y a quand même eu des conquêtes sociales.
Les Gilets jaunes ont obtenu plus que les syndicats. Ah
ben c'est toute la force de ce mouvement et la singularité de ce mouvement, c'est que ce mouvement a obtenu, vous l'avez parfaitement dit, beaucoup plus que l'ensemble des appareils de mobilisation classique que sont les syndicats. Donc, indéniablement, c'est un succès. Mais c'est un succès relatif.
Qui fait rire d'ailleurs Claudine Bory. Quand j'ai dit qu'il y avait eu des avancées, elle a éclaté de rire à côté de moi. C'est-à-dire
non,
que ça ne compte pas.
Non, j'ai pas éclaté de rire, mais disons si ça compte, bien sûr, mais je pense que par rapport à ce qui est posé comme question en profondeur et que, enfin, ce dont parlait Pascal, je pense que c'est pas grand-chose. Je pense que ça va pas s'arrêter là. Je pense que la question vraiment, c'est la démocratie. C'est de redéfinir un cadre réellement démocratique de la République. Or, la République telle qu'elle fonctionne depuis, enfin, la Ve République, hein, avec toutes les réformes qui ont été faites dans le cadre de la Ve République et qui vont toutes dans le même sens, pose vraiment la question de la démocratie. C'est-à-dire comment le peuple est représenté. Est-ce que le peuple est vraiment représenté? Enfin, qui sont les députés qui sont à l'Assemblée nationale?
Ils sont élus par le peuple.
Ils sont élus par qui? Et ils sont élus par qui dans le peuple? Déjà, il y a une abstention donc, qui n'est jamais prise en compte. Il y a un vote blanc qui n'est jamais pris en compte. Et objectivement, l'origine sociale, culturelle des députés qui sont aujourd'hui dans l'Assemblée, dans l'hémicycle, représente pour 80% des professions qui n'ont rien à voir avec les plus démunis d'entre nous.
Alors, excusez-moi, pour autant, donc, je regarde les scores des voix de l'Alliance jaune de Francis Lalanne aux européennes, 0,54%, 0,01% pour Révolution citoyenne menée par Christophe Chalençon. Donc, au moment où il y aurait pu y avoir des députés, le peuple dont vous parlez n'est pas derrière non plus.
Mais le peuple, vous savez, qu'est-ce que c'est le peuple?
Ah, mais c'est la deuxième fois que vous me demandez la question.
Moi, je ne définirais pas le peuple aussi facilement.
Arnaud Benedetti.
Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des forces politiques qui ont bénéficié lors des élections européennes du mouvement des Gilets jaunes. Quand on regarde ce que l'on appelle la diagonale du vide, cette zone géographique qui traverse le pays, vous voyez bien que les scores du Rassemblement national sont beaucoup plus hauts que la moyenne qui est la sienne sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a eu, malgré tout, un certain nombre, disons, d'expressions politiques qui se sont formulées à l'occasion des européennes dans le vote notamment en faveur de Marine Le Pen, mais pas seulement.
Mais alors, quand l'extrême gauche ou même les insoumis se sont mis derrière Éric Drouet, derrière les Gilets jaunes, est-ce que c'était pas un risque politique, Pascal Fautrier, de se mettre derrière un mouvement alors qu'on savait très bien qu'il était un peu aveugle et qu'il y avait de tout dedans?
Il était temps. Le problème, c'est que cette gauche n'a pas réorienté le mouvement d'une façon convaincante, puisque la grande question qui est posée, à mon sens, c'est le fait de s'adresser constamment à l'État. Une des choses que ces petites mesures dont vous avez parlé tout à l'heure n'a pas changé, c'est le taux des inégalités sociales, et qui pose évidemment pas seulement le problème de la représentation politique, effectivement les députés font partie des 10% des Français les plus riches, bon, mais ça pose aussi d'autres problèmes, des problèmes beaucoup plus structurels, et là il y aurait dû y avoir un discours de gauche sur la question de l'État en France. On est quasiment dans ce qu'on pourrait appeler un capitalisme d'État, on est presque chinois de ce point de vue, et ce discours de l'analyse des rapports entre les oligarchies capitalistes et l'État n'a pas été posé par la gauche, n'a pas été posé d'une manière suffisamment claire. Et d'autre part, un certain combat contre l'extrême droite et contre la croyance en un État fort, en un État qui ait les possibilités de lutter contre tout, finalement, ce discours-là a été surtout récupéré par l'extrême droite. Voilà.
C'est pour ça que vous pensez que l'extrême gauche est intervenue, c'est pour contrebalancer l'influence de l'extrême droite dans ce mouvement social?
Non, pas du tout, parce que je pense qu'une partie des gens fait la même analyse que moi j'ai faite très très vite, c'est-à-dire que c'était effectivement un soulèvement populaire, un soulèvement de ras-le-bol social, qui touchait pas du tout seulement les classes moyennes, en réalité, bon, les gens très précarisés, mais aussi effectivement les classes moyennes de plus en plus précarisées, et que bien évidemment, la gauche aurait dû à ce moment-là tenir haut et fort un discours de justice sociale bien plus clair, et qui ne rentre pas dans l'impasse de s'adresser exclusivement à l'État. On sait très bien que Macron est au pouvoir pour 5 ans, donc il aurait fallu proposer un discours beaucoup plus clair sur l'état des choses, c'est-à-dire par exemple le rôle du capitalisme et les imbrications dans ce pays entre le pouvoir des capitalistes, oligarques et l'État.
That sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. I'm to you, you are to me, let's go.
Allez, je vais le dire à la française. Vampire Weekend sur France Inter.
Ils Vampire seront... Weekend.
Voilà, je vais compter sur vous. Ils seront en concert au Zénith de Paris le 16 novembre
sans
prochain.
Blague.
Ouais, ça c'est super.
Bon.
Nous sommes un collectif animé par le désir de comprendre la société dans laquelle on vit, le désir de se faire entendre et de prendre la parole, le désir de justice, le désir d'agir, de lutter, de transmettre, le désir de changement de nos quotidiens et pour un meilleur avenir.
Le nouveau rendez-vous.
Elle va bien, la France, mais
la France, elle est bien, mais elle pourrait être mieux.
Cette association est adressée à la Commission des lois pour pouvoir intervenir dans le débat et présenter aux parlementaires ceux qui ont travaillé depuis plusieurs mois.
L'idée, c'est d'aller à l'Assemblée nationale pour rencontrer des députés de la Commission des lois constitutionnelles.
C'est la réforme constitutionnelle. Donc c'est pas un petit truc, c'est pas un petit morceau.
Il n'y a jamais rien caché parce que c'est pas un système fait pour nous. Créons un système fait pour nous. Et c'est pour ça qu'il faut tout repenser.
Sur France Inter.
Et c'est vrai, il repense à tout dans ce film « Nous le peuple », c'est votre film, Claudine Bory, ça sort mercredi prochain. Il a été tourné entre janvier et juillet 2018, même s'il a été pensé déjà en 2016, 2 mois avant la prise de parole et les actions des Gilets jaunes. Vous vous intéressiez alors aux ateliers constituants, vous nous expliquez peut-être ce que c'était ?
Alors, les ateliers constituants qu'on a découverts justement avant de commencer à tourner, on les a découverts, voilà. On a entendu parler d'un atelier constituant qui se tenait à Montreuil, voilà, un autre à Ivry, un autre dans une autre ville. On est allé en premier à Montreuil et on a été absolument scotché. Il y avait là des gens qu'on connaissait pas, qui se connaissaient pas entre eux.
Et on fait quoi dans un atelier constituant ?
Attendez. Donc des gens qui venaient de milieux très différents et qui simplement avaient décidé de se rencontrer par évidemment l'intermédiaire d'un garçon qui avait une association pour reparler de la Constitution française.
Ah d'accord.
Voilà. C'est-à-dire que c'était autour du texte de la Constitution et ils commençaient par la lire, la Constitution. Simplement la lire, parce qu'ils ne la connaissaient pas plus que nous d'ailleurs. On l'a étudiée normalement à l'école, mais bon, quelque chose qu'on oublie tout de suite. Et en la lisant, ils redécouvraient quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire, par exemple, quand on lit le préambule et qu'on redécouvre que le but de la société, c'est le bonheur commun, ça fait quelque chose, quoi. Donc, les valeurs, les grands mots, enfin, tout ça, c'était absolument bouleversant pour eux. Voilà. Et donc, on s'est dit, là, il y a un film. Là, il y a un film à faire parce que nous, on avait envie de faire un film sur le politique, non pas la politique.
Non, le besoin
et le désir de politique. Et donc, on s'est dit, là, c'est vraiment formidable. On a trouvé, simplement, c'est pas cet atelier, parce que cet atelier, on sait pas quand il va se réunir. Nous, dans un film, on a besoin de personnages, on a besoin d'une dramaturgie, on a besoin d'un suspense, voilà. Et donc, après, on a parlé avec Jonathan et Léa, qui sont les animateurs d'une association d'éducation populaire qui s'appelle les Lucioles du Doc, qu'on connaissait parce que ils avaient déjà projeté nos films précédents en prison, dans différents endroits de ce genre. Et Jonathan nous a dit qu'il avait en projet de faire travailler trois groupes, donc un groupe de détenus à Fleury-Mérogis, un groupe de lycéennes Sarcelles et un groupe de femmes émigrées à Villeneuve-Saint-Georges sur la Constitution. Et là, c'était un travail qui s'étalait sur un an, c'était toutes les semaines, et donc là, on pouvait vraiment faire un film. Parce qu'on avait du temps, on allait pouvoir avoir des personnages, on allait pouvoir créer quelque chose qui était dans la durée. Et donc, on a dit banco, on y va. Voilà. Et c'est comme ça qu'est née l'idée concrète, disons, du film. Et évidemment, il n'y avait aucun gilet jaune.
Bien entendu, c'était quelques mois après. Est-ce que vous avez vu un lien, justement, entre ce que vous avez appris et découvert en tournant ce film et plus tard, les actions et les revendications des gilets jaunes?
Écoutez, nous, on a été scotchés quand les gilets jaunes sont arrivés. On était au montage. On avait déjà tourné. Et on rentrait le soir à la maison, on écoutait la radio, on avait l'impression d'être encore au montage. C'était fou.
La revendication du référendum, tout ça, c'était présent dans vos...
C'est-à-dire la revendication d'une démocratie réelle, de plus de démocratie directe, la mise en cause des représentants politiques actuels, la mise en cause de la façon dont ils sont élus. C'est-à-dire, ça allait très très loin. Et ça, on a retrouvé ça complètement. Évidemment, les inégalités sociales, puisqu'en fait, si vous voulez, le travail que menaient Jonathan et Léa commençait, se déroulait exactement comme ce qui s'est passé au moment de l'écriture de la Constitution française en 89-93. C'est 1789-93. Oui, c'est-à-dire, d'abord, les doléances. On part des doléances. Voilà. Donc, on est parti des doléances.
C'est quelque chose qui s'est répliqué par la suite.
C'est toujours les mêmes principes, vous savez. Ben oui. C'est toujours les mêmes. C'est pour ça qu'effectivement, effectivement, là, il s'agit d'un mouvement très, très étonnant parce que s'il est inscrit dans une histoire où il y a toujours eu, à plusieurs moments en tout cas, ce type d'insurrection populaire.
Alors, à propos d'insurrection populaire, on a un auditeur qui nous a appelé, qui a laissé un message sur le répondeur 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37, on l'écoute.
Oui, bonjour. J'ai proposé aux Gilets jaunes, de façon à ce que le mouvement ne meure pas, que l'on se serve d'Internet pour s'inscrire à une manifestation. En dessous d'un million, elles ne sont pas prises en compte par le gouvernement. Voilà, donc on s'inscrit, on attend le million, et là, on fait un gros truc, et c'est la dernière, et on est pris en compte. Et je dis un million, c'est encore très en dessous de ce qu'il faudrait. Bon, allez, voilà, c'est une suggestion, si on ne la prend pas en compte, malheureusement, eh bien, ça risque de tomber dans les oubliettes. Voilà, merci pour votre émission, elle est super, au revoir.
Ah non, c'est très gentil.
C'est très sympathique.
La prochaine fois, il faut qu'ils laissent leur nom. Et l'endroit d'où
il faut
d'où
que les gilets jaunes soient plus d'un million, c'est ça l'idée.
Pour que ça soit pris en compte, c'est quoi cette histoire, Arnaud Benedetti? En
fait, je découvre comme vous, mais ce que montre ce mouvement aussi, c'est, si vous voulez, le besoin d'expression politique et le fait que les schémas politiques dans lesquels nous vivons aujourd'hui ne sont plus reconnus comme légitimes pour une partie de la population. Et que le vote en tant que tel même ne sert à rien. Le référendum de 2005, de ce point de vue-là, je veux dire, a joué un rôle extrêmement important dans ce sentiment de dépossession que les citoyens ont de leur parole et de leur vote. Et le mouvement des Gilets jaunes, c'est à la fois la question du rapport à l'État et c'est aussi la question du rapport à la démocratie. C'est ces deux rapports qui structurent fondamentalement les Gilets jaunes. Et qu'ils expriment de manière quand même très hétérogène, il faut le dire encore. Ce qui caractérise ce mouvement, c'est son hétérogénéité à la fois sociale et politique.
Ce qui est intéressant dans votre parcours, en fait, Ingrid Levavasseur, c'est que vous n'avez rien à regretter de ce mouvement des Gilets jaunes, parce qu'il vous a permis d'avoir une prise de conscience et une prise de parole politique pour aujourd'hui mener des actions sur le terrain avec deux associations.
Tout à fait, moi je ne regrette absolument pas ce qui s'est passé depuis le mois de novembre. Au contraire, je trouve que ça m'a permis d'avancer personnellement, mais aussi en groupe, en communauté, parce qu'on travaille en équipe. Effectivement, il y a l'association Racines Positives qui avance plutôt bien.
Sur les familles monoparentales.
Pour les familles monoparentales, voilà, en voie de reconversion professionnelle, parce que l'objectif, c'est pas d'obtenir plus d'aide sociale, mais obtenir la possibilité d'évoluer socialement, en tout cas en passant par la voie professionnelle. Donc ça, c'est pour Racines Positives. Et Éclosion Démocratique, ce sont des commissions qui se mettent en place avec des personnes qui travaillent ensemble de manière à pouvoir avoir à être force de proposition, à proposer des solutions concrètes et réalisables.
Pascal Fautrier, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on pourrait dire que l'avenir du mouvement n'est plus forcément dans les manifestations, mais dans les actions citoyennes menées.
Les initiatives.
Je pense que de toute façon, on ne sait pas ce qui va se passer et que la situation va fabriquer des choses. En ce qui me concerne, ce qui m'a intéressé, c'était de pratiquer une écriture du présent, parce que j'étais beaucoup intéressée à l'histoire, et d'essayer d'y voir plus clair justement sur ce besoin de politique et de démocratie. Et il me semble qu'à l'issue de ce parcours, même si moi-même j'ai laissé mes contradictions vivre dans le livre, mais il me semble que sur cette demande de démocratie, il y a quelque chose qui couvre, qui est comme une conception naturaliste de l'ordre politique qui explique cette espèce de confusion entre, je dirais, l'extrême droite et l'extrême gauche. Il y a le concept de démocratie organique chez Alain de Benoist, qui est le grand penseur de l'extrême droite, qui, lui, a théorisé depuis très très longtemps cette demande naturaliste d'ordre et de société d'ordre. Et je crois que, y compris à l'extrême gauche, il faut, enfin surtout à l'extrême gauche et à gauche, je crois qu'il faut réfléchir à ce que c'est que la demande de démocratie, qui soit pas une demande de société d'ordre, justement, et qui soit pas un retour vers une nature qui n'existe pas ou vers un ordre naturel qui n'existe pas. Je crois que c'est à ces questions-là que j'ai abouti comme réflexion et qui m'ont intéressée.
Claudine Boré ?
Oui, je partage tout à fait ce point de vue. Je pense que qu'il y a une demande très très forte et que je pense que les gilets jaunes, c'est pas tellement la question de savoir s'ils vont être plus nombreux ou pas. Je pense vraiment que c'est une graine qui est semée et que elle va ensemencer et que c'est autre chose de plus large sans doute qui surgira, mais que la question elle est celle-ci.
Il y a une dimension dans votre livre, Ingrid Levavasseur, c'est dont vous parlez, qui vous choque lorsque vous êtes gilet jaune, c'est la dimension complotiste. Or là, j'ai appris récemment que Maxime Nicole, qui est celui qui prête le plus le flanc à cette critique, va travailler avec Aude Lancelin dans le QG. Donc là, il y a une sorte d'étrange alliance entre une partie de la gauche,
pas
on pourrait dire.
Non, moi, mon analyse, c'est qu'il y a un courant souverainiste qui est pour la reprise en main par la politique, par un État fort. Je pense que Aude Lancelin fait partie de ce courant souverainiste. Maxime Nicole vient de l'extrême droite, c'est très clair. Très très clair. Il a été un peu récupéré, cocooné par des gens comme Juan Branco et Aude Lancelin, mais qui sont eux-mêmes sur une ligne qui est parfaitement souverainiste. Il y a une vraie convergence. Et puis il y a des gens comme l'avocat Bouleau qui ont milité pour une alliance entre deux LFI à l'ultra-droite sur cette ligne souverainiste. Donc il n'y a pas de contradiction.
Ingrid Levavasseur ?
Oui, en fait, ce qui est assez drôle finalement, c'est que moi j'ai été controversée parce qu'on m'a proposé une chronique en tant que citoyenne pour parler sur BFM TV et j'ai été huée et enfin voilà, ça a été la catastrophe. Et d'ailleurs, même Maxime Nicole s'est mêlé de l'histoire.
Exactement.
Et a su me mettre des bâtons dans les roues à tort et à travers avec tous les autres pour dire honte à elle, elle travaille pour BFM et donc les médias et donc le gouvernement. Bon là, qu'est-ce qu'il fait ? Enfin voilà, lui aussi va gagner de l'argent finalement. Enfin moi, j'en aurais
QG,
pas gagné
tant
que ça.
QG, c'est quand même pas BFM TV.
C'est pas BFM TV, mais ils sont très bien soutenus. Ils sont très bien soutenus. Et d'ailleurs, je pense que ça marchera. Comme le livre de Juan Branco qui est très loin d'être dernier dans les ventes, qui fonctionne très très bien, et je pense qu'il y aura un soutien financier parce que quand il s'agit de créer ce type de choses, il y a toujours du monde derrière. Par contre, pour les solutions comme pour les familles monoparentales et comme pour le problème des féminicides, on manque encore une fois d'argent. Quand il s'agit des femmes, on n'est pas là pour les soutenir, et moi j'en ai un peu marre d'entendre justement qu'il y a de l'argent pour certaines choses et pas pour d'autres.
Et ben, ce sera le mot de la fin. Ça, c'est une prise de parole politique. Voilà. Merci à vous, Ingrid Levavasseur. On va se quitter en musique. Qui fait du bruit ?
Avec des gilets jaunes ?
Non.
Ah bon ?
Non.
Mais
pourquoi ?
Pourquoi ?
Bah pourquoi pas ?
Bah comptez pas sur moi.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Tous nos invités mettent le casque et vont régler leur potard parce qu'ils ont bien compris que c'était l'instant live.
Ouais, avec une histoire qui commence dans un bac à disques. Un bac à disques non pas à Londres, à Paris ou à New York, mais à Istanbul. C'est là qu'est en vacances Jasper. Jasper, c'est le bassiste avec le t-shirt jaune là-bas.
Ah, ben vous voyez qu'il y en a.
Voilà, et il est néerlandais. Il collabore très souvent avec le musicien Jaco Garner. Il est en vacances, il traîne chez les disquaires stambouliotes et là, il tombe en amour devant la musique psychédélique turque des années 60-70, écrite par des gens comme Selda Bakshan, j'espère que je prononce bien, ou Erkin Koray. Erkin Maline Corret, c'est Maline. Ça, c'est... on est en 1974. Laurent, c'était alors une grande vedette de l'autre côté du Bosphore. Alors Jasper rentre à Amsterdam avec sous le bras non pas des tapis ou des loukoums, non, lui ramène un paquet de vinyles. Il les fait écouter à ses copains musiciens. Il leur transmet son enthousiasme. Et puis ils se disent que finalement, entre coffee shop et grand bazar, on devrait pouvoir s'entendre. Alors il recrute grâce à Facebook une chanteuse tambouliote. Elle est là, c'est Merche, et un Jimi Hendrix version saz électrique. Il est là lui aussi.
Je vois aussi.
C'est
oui.
Erdinch. J'espère que je prononce bien, il va me tuer sinon. L'aventure Altingen peut enfin commencer. Altingen, ça veut dire l'âge d'or, et l'idée, c'est de rendre hommage à cet âge d'or, justement, de la pop anatolienne. Il y a un premier album qui est sorti il y a 2 ans, le groupe a joué un peu partout, au Transmusical. Tout le monde s'est enflammé devant ce nouveau folklore, cosmique, vintage, groovy, c'est irrésistible. Ils sont assez nombreux dans le studio 621, parce qu'Altingen, c'est encore en live que ça s'apprécie le mieux. C'est à vous, Altingen. C'est extrait de leur nouvel album Getche, ça veut dire la nuit en turc. Ils seront de nouveau en tournée en France. Ce sera à la fin du mois d'octobre. Strasbourg le 29 octobre. Lausanne, Marseille, Montpellier, Agen, Sannois, Nantes, Rennes, Lille. Et la prise de son ce soir était assurée par Alexandre Chenet et Serge Viguier qui ont fait un super boulot.
Un super
pas
boulot
évident.
Parce que l'installation n'était vraiment pas facile. Merci à tous nos invités. Claudine Bory, Nous le Peuple, le film sortira en salle mercredi prochain. Ingrid Levavasseur, Restez digne, Pourquoi je me bats, c'est aux éditions Flammarion. Pascal Fautrier, La vie en jaune, chronique d'un soulèvement populaire aux éditions Diable Vauvert. Et Arnaud Benedetti, on vous retrouve dans la revue politique et parlementaire. Merci à vous. C'était le NRV, première partie du lundi. On se retrouve dans 15 minutes pour le NRV La Suite. Demain, au programme du NRV, ce sera ça.
Alexa, c'est quoi un clafoutis ?
Le clafoutis est un entremets composé d'une pâte à base de lait et de fruits.
Dit Alexa, pas de clafoutis mais algorithme dans la peau. Demain, le monde de la culture et de l'économie doivent-ils craindre les géants du numérique ? Alors je vous invite dès à présent à poser vos questions, interrogations, analyses sur notre répondeur 01 56 40 37 37. On vous attend et n'oubliez pas de donner votre nom et votre lieu de résidence. En live, Marion, demain ?
Un héros de la pop anglaise, Jack Peignat, qui est de retour.
Le nouveau rendez-vous, vous le savez, c'est deux fois plus de chances de nous écouter dès 18h sur franceinter.fr en podcast ou alors 22h minuit à la radio, comme tout le monde. Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation, la programmation, la préparation, Virginie Rosic. Je vous donne rendez-vous dans 15 minutes après le journal avec les 20 ans d'interception. C'est au programme du NRV La Suite, France Inter+. À tout de suite.
Rendez-vous.